allons entendre M. Pierre Brigny, qui est chercheur à l'Université de Grenoble, également actif à l'échelle européenne dans le domaine du théâtre, et qui va vous présenter une recherche qui est encore en cours, si je ne me trompe pas, sur les fédéralistes allemands.
Je vous remercie. Je voulais remercier la Fondation Chamoun de m'avoir convié à cette conférence sur ces questions-là que j'ai développées dans un travail de recherche sous la direction de Bernard Bunto à l'Université de Grenoble. Et en fait, je suis parti d'une question assez simple qui était de me dire d'où vient cette notion politique qui est l'arc alpin. On parle d'arc alpin en Europe en permanence, notamment dans nos régions. Et je voulais savoir si cette notion politique avait des racines idéologiques ou est-ce que c'était une invention, je dirais, des spécialistes de la communication et du marketing territorial, ou est-ce qu'il y avait des penseurs qui avaient développé une idée d'Europe particulière dans les Alpes. Et pour étudier ces racines idéologiques de la notion d'arc alpin, je dirais que j'ai utilisé des outils propres à l'histoire des intellectuels et des idées politiques, comme par exemple Rochasson les définit, c'est-à-dire des hommes, des lieux, des milieux, des réseaux, qui encadrent l'activité professionnelle de l'intellectuel et son engagement politique. Il rajoute au-dessus de ces milieux des réseaux à leur tour structurent la vie intellectuelle, des revues ou des groupes peuvent former entre eux des réseaux qui présentent le caractère d'être des outils d'une stratégie politique ou intellectuelle. Et j'ai aussi beaucoup utilisé la notion de génération intellectuelle, j'y reviendrai. J'ai surtout travaillé donc sur le territoire des Alpes occidentales, le Val d'Aoste, la Suisse, la région Rhône-Alpes. Aujourd'hui, ensemble transfrontalier qu'on appelle la Cotra. Et au niveau temporel, je dirais que j'ai étudié cette idée fédéraliste dans les Alpes sur le premier XXe siècle, de 1904-5 à 1948, qui marque, je dirais, la fin de la première campagne des congrès. Et j'ai pu identifier plusieurs milieux intellectuels. Je ne vais pas tous les développer parce qu'au total, il y en avait plus que prévu. Le premier milieu que j'ai pu repérer, c'est le milieu nationaliste suisse qu'Alain Clavien nomme les helvétistes. Le second, c'est le milieu régionaliste valdôtain, d'abord développé par la Ligue valdôtaine, puis par la Jeune Vallée d'Aoste. Et les milieux de la droite française, d'abord avec l'Action française de Maurras, puis, mais je ne vais pas développer parce que ce sera abordé cet après-midi, les non-conformistes des années 30. Je vais essayer dans un premier temps donc de vous présenter un peu ces groupes, ces hommes, leur évolution avec le renouvellement générationnel qu'il y a eu sur le premier XXe siècle. Et après, j'insisterai plus, je dirais, sur les idées, même si les hommes et les idées sont bien sûr... très liés, mais il me fallait bien séparer dans un souci de clarification, parce qu'il y a énormément d'idéologies qui se croisent sur cette question-là. Et j'insisterai donc sur le fait que la pensée des fédéralistes alpins, Chamoun en premier, mais entre autres, est issue de plusieurs acculturations politiques successives. Et j'insisterai sur deux acculturations. La première, c'est l'appropriation de la pensée de Maurras en Suisse. Et la seconde, c'est l'appropriation du modèle suisse construit, notamment au début du siècle, par Chamoun. Chamoun, mais aussi d'autres fédéralistes valdôtains, et je pense notamment à Joseph Bréhin. Donc, d'abord les helvétistes. Le début du siècle en Suisse marque la naissance d'un groupe intellectuel qu'Alain Clavien a nommé les helvétistes, qui a été largement influencé par l'idéologie de l'Action française de Maurras, mais aussi le panlatinisme d'un Mistral ou le régionalisme d'un Jean Charbon. Ces helvétistes se regroupent autour de trois personnalités, Gonzague de Reynolds, Charles Ferdinand Ramul et Charles Albert Singrier. C'est un mouvement au départ littéraire et puis qui peu à peu vire vers le politique. C'est un mouvement qui exalte un esprit suisse fondé sur le fédéralisme, la coexistence de plusieurs communautés linguistiques et un sentimentalisme alpestre à base littéraire. Donc il crée une revue qui s'appelle La Voix Latine et qui développe cette notion d'esprit suisse. Donc ces hommes au départ liés autour de cette revue de La Voix Latine se séparent dans les années 1910 avec la disparition de la revue, et deux groupes se forment donc chez ces intellectuels romands, l'un à vocation politique avec des hommes comme Gonzague de Reynolds et Robert de Traz, et l'autre à vocation plus esthétique avec Singria et Ramul. Je dirais, pour résumer, que la différence entre les deux groupes résulte d'une interprétation différente de la doctrine maurrassienne. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. En 1911, Reynolds et Traz fondent Les Feuillets, revue qui travaillera en étroite collaboration avec l'Action française. Reynolds écrira d'ailleurs plusieurs articles et fera une apparition remarquée au congrès de 1911 de l'Action française. Néanmoins, les deux mouvances de ce mouvement helvétiste n'auront pas la même destinée, puisque, je dirais, la branche politique bénéficie de la montée en puissance dès les années 20-30 de Gonzague de Reynolds, qui s'est construit une réputation européenne. Et ils voient donc certaines de leurs idées trouver audience parmi les sphères officielles du pouvoir fédéral, notamment chez un homme qu'on a évoqué ce matin, qui est Philippe Etter. Voilà le premier milieu d'accueil de la pensée fédéraliste dans les Alpes. Le second milieu d'accueil, c'est la Ligue Val d'Autène, dirigée par Anselme Réan, qui crée un mouvement de défense de la langue française en Val d'Aoste dès 1909, en réaction à l'italianisation de la vallée d'Aoste depuis les années 1870. La Ligue Val d'Autène est menée d'une main de fer par Anselme Réan et regroupe des notables de la vallée autour de cet engagement régionaliste. Excusez-moi. Le groupe a publié un bulletin de la Ligue Val d'Autène de 1909 à 1923, et toutes les attentions se portaient en direction de la défense de la langue française et de l'exaltation de la tradition Val d'Autène. Encore une fois, énormément d'ouvrages ont été écrits sur le sujet, donc je ne vais pas développer. Je dirais l'action la plus symbolique a été l'édition d'un chansonnier valdôtain en langue française. Et je dirais que la plupart des articles s'attaquent à la centralisation de l'État italien et à l'italianisation des emplois en Val d'Aoste, notamment les emplois d'instituteurs et les fameuses maestrines venues d'autres écoles normales italiennes. Je développe ce milieu intellectuel de départ. Pourquoi ? Parce que ce sera dans ce creuset idéologique que le jeune Émile Chanou se sensibilisera à la cause Val d'Autène et publiera ses premiers articles. Et c'est en cela que ça nous intéresse, puisqu'on est ici pour étudier les sources de la pensée chanousienne. Je dirais que les helvétistes et les régionalistes valdôtains du premier XXe siècle ont constitué les premiers fédéralistes alpins parce qu'ils ont exalté de façon un peu différente un particularisme alpin, chacun dans leur pays respectif. Et même s'ils divergent quant à leurs objectifs, ces deux engagements donnèrent au fédéralisme alpin un creuset idéologique mêlant régionalisme linguistique et fédéralisme comme moyen de coexistence pacifique. Ces milieux-là vont se renouveler très rapidement dans les années 25 et de manière, je dirais, tout à fait concomitante, c'est assez étonnant de le remarquer. Donc d'une part, la Ligue Val d'Autène, très rapidement, est battue en brèche par une nouvelle génération de militants régionalistes valdôtains, dont Chanou. Et une scission a lieu à partir de 23, mais surtout en 25, avec la création de la jeune vallée d'Aoste, parce que l'homme fort de la Ligue Val d'Autène avait quelques sympathies vis-à-vis du régime fasciste qui venait de se mettre en place. Donc cette deuxième génération diffère aussi de la première, car elle s'est formée à l'idée régionaliste au sein de la Ligue Val d'Autène, mais ils ont poursuivi leur cursus universitaire pour la plupart à Turin et à Milan, et ils se sont ouverts donc sur, sur, sur d'autres engagements et ils ont étoffé du coup leurs revendications. Chanou en est la preuve concrète, notamment avec son mémoire, je crois qu'il a publié dans les années 27-28, sur la question des minorités linguistiques. De plus, cette formation les a sensibilisés à la question du fédéralisme. Et du coup, quand ils sont revenus sur leur terre, des hommes comme Chanou ont influé énormément sur ce changement de cap des régionalistes valdotins, ancrés dans la démocratie et opposés au fascisme. Parallèlement, en Suisse, on assiste à l'émergence d'un groupe aussi dans les années 25, et le renouvellement pour les helvétistes est tout aussi frappant, avec l'apparition d'une nouvelle droite extrême romande qui influencera grandement le fédéralisme alpin de par sa composante ethniste. Et à ce sujet, Claude Hauser parle de l'apparition d'un romandisme intégral, en nous disant que l'idée du romandisme intégral peut se définir comme une réaction nationaliste romande à l'internationalisme de la SDN, défenseur d'un fédéralisme fondé sur une tradition suisse pré-révolutionnaire, se référant au royaume de Bourgogne médiéval qui voulait passer la frontière franco-suisse. Les romandistes le concrétisent dans une revendication ethnopolitique, l'autonomisation de la Suisse romande détachée d'un bloc alémanique diabolisé. Ces romandistes, donc de cette deuxième génération de nationalistes suisses, mais aussi séparatistes, sont accompagnés d'autres groupes, comme le groupe de Georges Ultramar, l'Union nationale, et en cela ils renouvelèrent les milieux intellectuels d'extrême droite en Suisse. Mais on peut dire sans conteste que ce soit l'extrême droite romande, mais aussi le second milieu régionaliste valdotin ont vraiment influencé la pensée fédéraliste dans les Alpes. À la même époque, il y a un autre milieu qui se crée en France, que je ne vais pas développer, c'est les non-conformistes des années 30. Je vais juste insister sur plusieurs composantes. C'est que les milieux helvétistes et les milieux régionalistes valdotins, jusque dans les années 30, ne se sont pas côtoyés. Et le relais, je dirais, le relais idéologique s'est fait par l'intermédiaire des non-conformistes des années 30. Trois exemples suffisent à illustrer ce rôle de relais et du coup d'européanisation des milieux intellectuels. Je vais juste prendre trois exemples. Bien sûr, la personne de Denis de Rougemont, qui fut l'ambassadeur des milieux de la droite suisse en France, et qui participa notamment à leur renouveau. Daniel Rops ou Henri Petiot, qui entretint une correspondance et une longue amitié avec un régionaliste valdotin du nom de Joseph Bréan, membre lui-même de la Jeune Vallée d'Aoste, et Charles-Ferdinand Ramu, qui était au départ dans les milieux helvétistes et qu'on retrouve en partie dans la revue Esprit, notamment dans les premières années de la revue. Enfin, on peut citer Jacques Maritain, qui entretint une longue correspondance avec Charles Journet, membre des milieux intellectuels de la droite suisse romande. Et en cela, les milieux non-conformistes français ont permis, je dirais, d'ouvrir les deux milieux de base, que sont les helvétistes et les régionalistes valdotins, sur l'Europe, et surtout de les inscrire dans une réflexion plus globale sur une crise de civilisation. Ce qu'on peut dire aussi pour les non-conformistes, et qu'on peut d'ailleurs dire chez tous les fédéralistes alpins, c'est que dans les années 40, la guerre marque une rupture entre les défenseurs d'une Europe nouvelle, sous la férule allemande par exemple, et les fédéralistes résistants qui se regroupèrent pour la plupart en Suisse ou aux États-Unis pour défendre l'idée d'une Europe fédérale à base démocratique. Et je dirais que dans la pensée fédéraliste alpine, on a toujours ces deux tendances, une tendance autoritaire et une tendance autoritaire plus penchée vers le totalitarisme et une tendance démocratique symbolisée par Chanou. Et je pense que c'est important de souligner cette frange autoritaire. Pendant la guerre, pour suivre un peu l'évolution de ces hommes-là, la Suisse a été, je dirais, le centre des réseaux fédéralistes résistants, surtout à partir de 1943 et la chute du régime fasciste. Alors que la majorité des leaders de la Jeune Vallée d'Aoste résista jusqu'en 1943 aux milices fascistes, le durcissement du régime entraîna l'émigration de certains hommes vers la Suisse, notamment Severino Caveri et Joseph Bréan, qui constituent les deux figures importantes de cette émigration, alors que Chanoux mourra assassiné par les fascistes en juin 1944. Ces émigrés fédéralistes valdôtains, avant de quitter leur terre, avaient tissé de nombreux liens avec des membres de la résistance piémontaise et vaudoise, en atteste bien évidemment la déclaration qui va suivre. Et ce sont tous ces émigrés italiens que l'on retrouve en Suisse italienne et dans le canton de Genève qui perpétueront, je dirais, l'engagement fédéraliste alpin. Il est par exemple intéressant de noter l'amitié et l'engagement fédéraliste qu'il y a Luigi Einaudi et Severino Caveri lors de leur exil en Suisse. À ces exilés politiques piémontais et valdotins vont s'ajouter les membres du mouvement fédéraliste européen, Spinelli, Rossi, Rollier, qui publiaient à Genève la revue L'Unità Europea à partir de 1943. Et à ce sujet-là, il est important de noter l'importance de Mario Alberto Rollier dans ce rôle, tout comme Denis de Rougemont, de relais vers d'autres pensées, je dirais, plus globales. Et en ça, la déclaration de Chivasso, elle est intéressante, bien sûr, dans sa lutte contre le fascisme et sa volonté de reconstruire l'État italien sur des fédéralistes, mais elle est aussi importante parce qu'elle ouvre la pensée fédéraliste alpine, au départ cantonnée sur des milieux locaux, à la pensée européenne. Et on verra que chez Chanoux, la rencontre avec Rollier est décisive dans la constitution de sa pensée, notamment sa pensée des années précédant sa mort et sa vision des Alpes, sa vision du rôle des Alpes et de la Suisse dans la reconstruction de l'Europe et la construction d'une Europe fédérale. À l'inverse de ce mouvement qui était donc ancré dans la démocratie, on a un autre mouvement, et notamment chez les helvétistes, qui eurent des sympathies totalitaires et des velléités de collaboration. L'illusion de l'Europe nouvelle d'Hitler n'épargna pas donc les intellectuels alpins, bien au contraire, elle répondait à une attente de leur part, car elle symbolisait le mythe du fédéralisme autoritaire mêlé à l'idéal ethnique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que certains intellectuels suisses qui prenaient dans le début du siècle un anti-germanisme convaincu, cet anti-germanisme passait alors au second plan si le régime nazi permettait cette nouvelle construction politique européenne. En novembre 40, on peut noter par exemple que les intellectuels de l'extrême droite helvétique et en particulier de la Ligue vaudoise envoyèrent une requête au gouvernement suisse signée par 73 personnalités helvétiques dans le but d'harmoniser la politique de la Confédération avec celle de l'Allemagne nazie, plus connue sous le nom de pétition des 200. Parmi ces signataires, on trouve des hommes comme Alfred Lombard ou encore Georges Ultramar en Suisse. Néanmoins, ces groupes ne rencontrèrent que très peu d'écho dans la population suisse du fait de la politique de défense nationale pendant la guerre. Et puis ces positions furent dès le départ comprises par la population comme assez paradoxales, car tout en professant un anti-germanisme à l'intérieur, ils se faisaient les champions du nazisme et du vichisme à l'extérieur. Ce qui est intéressant au-delà de ces divisions pendant la guerre, c'est les recompositions de ces réseaux après-guerre, puisqu'on a une ambiguïté dans la pensée fédéraliste alpine avant-guerre, avec une frange ethniste qui est tout à fait capable de discuter, de débattre avec une frange beaucoup plus démocrate et ancrée dans la démocratie. Il y a une séparation pendant la guerre, puisqu'il faut choisir son camp pour défendre cette pensée fédéraliste dans les Alpes, et l'après-guerre marque, je dirais, convergence de ces hommes, comme on l'a noté par exemple chez les non-conformistes des années 30, on peut aussi le noter pour les fédéralistes allemands. Et je vais juste présenter un mouvement qui est à mon avis vraiment révélateur de cette reconvergence après la guerre, c'est le mouvement de la fédération, qui ne nous intéresse pas ici en tant que mouvement fédéraliste d'après-guerre, mais plutôt en tant qu'héritier fidèle de l'engagement fédéraliste alpin, notamment de par son ambiguïté et l'ambiguïté de l'engagement de ses membres. En effet, on compte parmi ses collaborateurs des hommes comme De Jouvenel, Brugmans, Gravier, Daniel Rops, Pérou, mais aussi Gustave Thibon, considéré comme l'un des penseurs de l'État français. De plus, la fédération nous intéresse ici du fait du dynamisme de sa section lyonnaise et de son secrétaire général, Albert-Marie Gordiani, qui, à ce que j'ai pu lire dans mes différentes recherches, est le premier homme à parler d'arc alpin européanisé. Et à la fois Barrette et Gordiani créeront en 1951 le Conseil des communes d'Europe, premier groupe européiste à promouvoir les coopérations transfrontalières dans les Alpes, ancêtre donc de la notion de politique d'arc-alpin. Donc au regard de tous ces regroupements, on peut noter l'ambiguïté de l'engagement fédéraliste dans les Alpes, et les réseaux fédéralistes alpins transcendent les clivages habituels et mêlent, sans le moindre problème doctrinal, l'ethnisme avec la démocratie et les droits de l'homme. Toutes les grilles de lecture idéologique se trouvent alors modifiées. Je vais aller dans le cœur de ma réflexion qui va consister à voir comment la pensée fédéraliste dans les Alpes est issue de deux acculturations donc idéologiques successives. On va d'abord se poser la question de savoir comment les milieux intellectuels helvétistes se sont appropriés l'idéologie de la cour française. Et en quoi le modèle suisse véhiculé par les helvétistes a-t-il joué un rôle prédominant dans l'idéologie fédéraliste de Michel? Et puis on va se demander quels sont les processus qui ont mené au passage de l'argument ethnique, du champ politique au champ culturel dans l'après-guerre. Donc l'acculturation maurassienne en Suisse, Alain Clavien il précise tout à fait cette différence. En disant que l'introduction à l'acculturation des doctrines maurassiennes en Suisse va se faire surtout par le biais de la voile latine, on aurait pu aborder tout à l'heure, et par les feuillets. Dès 1909, les Gonzague de Reynolds, les Robert de Tras et autres William Martin n'ont pas caché leur enthousiasme pour le mouvement royaliste et son mentor. Pour ces jeunes gens, les doctrines de Maurras sont un spectacle qui fascine. Serge Rossier, dans son intervention pour le livre de Claude Hauser et Pomerol, présente les différences d'acculturation entre la branche politique et la branche littéraire, en disant que d'un côté les défenseurs de l'helvétisme sont partisans d'un nationalisme du pays officiel de la Suisse d'avant 48. Pour eux, la Suisse est une nation qui se caractérise par un esprit suisse, synthèse de l'esprit latin et de l'esprit germanique. Cet esprit suisse, créé en raison de la position géographique de la Suisse, marche intermédiaire entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest européen, confère au pays sa spécificité et par conséquent sa légitimité nationale. Dans l'autre camp, les tenants de la latinité, Ramu et Singria, rejettent l'idée que la Suisse puisse être un conglomérat germano-latin. Ils refusent la possibilité d'un art national, d'un esprit national suisse fusionné et revendiquent un particularisme roman qui ferait partie intégrante d'un pays réel, un grand continu latin, surtout géographique, pour Ramu. Au regard de cette rapide analyse, on peut donc voir que Maurras a été utilisé en Suisse de différentes manières, par les tenants de l'helvétisme, mais aussi par les tenants de la latinité, chez qui on retrouve aussi l'influence de quelqu'un comme Mistral. L'action française influença ces intellectuels suisses romans, et leur admiration pour Maurras les poussa à construire un nationalisme littéraire, une esthétique de la nation, au même titre que Maurras en France. Cette esthétique de la nation, elle nous intéresse encore une fois parce qu'elle a influencé quelqu'un comme Chanou dans les dernières années de sa vie. Donc je vais juste citer quelques passages, dire que évidemment le personnage central de cette construction d'esthétique de la nation, c'est Charles Ferdinand Ramu. Et Franck Jautran nous dit à ce sujet que Ramu impose la vision d'un pays nouveau qui descend par les coteaux du Léman jusqu'à l'embouchure de l'Aubonne en évitant Genève dont l'esprit citadin ne l'inspire pas, il peuple ces régions de drames mythiques, de légendes, de vastes poèmes. Donc ces auteurs prolixes, Singria et Ramu, participèrent activement à la construction d'une esthétique de la nation, et ce n'est que dans les années 20 que Ramu et Singria se firent les chants de la latinité romaine. Ils perpétuèrent alors sur le modèle Félibrige l'idée d'une confédération latine délimitée par les Alpes occidentales. L'amalgame des valeurs fédéralistes et des valeurs alpines légitime complètement la dénomination de fédéraliste alpin pour ces réseaux helvétistes. Et l'analyse de l'acculturation maurassienne en Suisse nous permet à présent de dégager les éléments fondateurs du modèle helvétique, c'est-à-dire la composante alpine, le nationalisme, le panlatinisme et le fédéralisme. Les milieux helvétistes donnèrent au fédéralisme alpin son identité et son ambiguïté originelle. Cette appropriation identitaire du modèle maurassien nous intéresse donc, comme je le disais, parce que ce modèle s'est exporté, et cette mystique de la nation s'est exportée elle aussi, de l'autre côté des Alpes, en Val d'Aoste. Et là, je vais essayer de vraiment de citer Chanoux pour montrer à quel point il a été influencé directement par des auteurs comme Ramu et comme Sigrilla dans la construction de sa pensée. Le premier texte qui atteste de la fascination des Valdotins et notamment de Chanoux pour la Suisse est une ébauche manuscrite de Chanoux, écrite vraisemblablement en 1942 et publiée en 1947 dans l'Union Valdotaine, intitulée « Causerie sur le rôle de la Suisse dans la renaissance de l'Europe ». Où Chanoux nous dit, sa phrase célèbre, « Il y a des peuples qui sont comme des flambeaux, ils sont faits pour illuminer le monde. » Et il poursuit, « En général, ce ne sont pas des grands peuples par le nombre, ils le sont parce qu'ils portent en eux la vérité et l'avenir. Dans les temps modernes, sauvages, durs, haineux, un petit pays semble avoir une mission qui a quelques ressemblances avec la mission du peuple juif, la Suisse. » Et il rajoute, « Dans cette Europe où les États sont centralisés par une machine administrative qui écrase tout, un seul pays est resté décentralisé, un seul pays est resté fédératif, la Suisse. Qu'elle ait pu rester au milieu de la tourmente, telle qu'elle est comme une cime illuminée par le soleil contre les flancs de laquelle vont se heurter les tempêtes, voilà qui est merveilleux, voilà qui a du miraculeux, voilà qui fait de la Suisse comme une prédestinée. » Donc plusieurs éléments nous intéressent ici. Tout d'abord, Chanoux divinise complètement la Suisse et le peuple suisse en la comparant au peuple juif. Cette divinisation s'accompagne d'un recours au mythe alpin de forteresse démocratique contre les totalitarismes, alors qu'on a bien vu que toute une frange des intellectuels suisses n'était pas ce qu'on peut appeler une forteresse démocratique. Chanoux, il parle de la Suisse comme un pays prédestiné qui a une mission divine à remplir, et en cela, il est largement influencé par la mystique développée quelques années auparavant par Sigrilla et Ramu. Mais plus que Ramu et Sigrilla, il y a une autre personne qui a vraiment influencé Chanoux, c'est le conseiller fédéral Philippe Etter, très proche de Reynold, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Sens et mission de la Suisse » en 1940. Et toujours dans cette notion de la mission de la Suisse dans la reconstruction de l'Europe, Chanoux s'inspire clairement de l'œuvre de Rougemont, « Mission et démission de la Suisse » écrit en 1941. Le deuxième texte est à mon sens encore plus révélateur de l'influence directe des milieux nationalistes suisses sur les fédéralistes valdotins. Et il est issu du journal de Joseph Bréant lors de son exil en Suisse de 1943 à 1945, intitulé « En Suisse ». En atteste ce passage du journal de Bréant, qui cite le livre de Philippe Etter directement. « L'essence même de la liberté helvétique repose sur le droit le plus étendu qu'ont les petits États confédérés de décider d'eux-mêmes. La structure de la confédération n'a pas son origine en haut, mais bien en bas. L'union n'a pas été créée artificiellement, elle est naturelle, organique et basée sur l'histoire. Les parties constituantes existaient avant la fédération, les cantons avant la confédération. Avant la fédération et les cantons avant la confédération. Du soin que le citoyen prend du sort de la commune naît son souci de celui du canton et la conscience qu'il acquiert de sa responsabilité au sein de la confédération. Voilà ce qui importe dans une démocratie, le sens des responsabilités. » Et il cite toute la référence du livre d'Etter, « Sens et mission de la Suisse ». Et en cela, il ne fait que diffuser la pensée nationaliste quelqu'un comme Etter, et il reste, je dirais, complètement aveuglé par ce modèle suisse construit dans le premier XXe siècle. Il y a un autre élément qui a vraiment influencé, je dirais, les régionalistes valdotins, c'est le sentimentalisme alpestre développé notamment chez Ramu, et en cela, il y a une deuxième œuvre de Joseph Bréant qui est très significative, qui s'appelle « Civilisation alpestre », dans lequel il exalte, au même titre que Ramu, la force de caractère, la sobriété, le sens des responsabilités des hommes de l'Alpe. Il commence son ouvrage ainsi, et là on est dans du Ramu dans le texte, « Des montagnes, des coteaux, des vallons, des collines, des forêts, quelques petites plaines, et puis de nouveau des montagnes, partout des montagnes, toujours des montagnes, tels sont les pays où les populations alpestres sont nées et passent leur vie. » Ainsi on voit que je dirais que et Chanoux et Bréant ont été influencés, je dirais, par les deux branches des helvétistes, la branche littéraire et la branche politique. Et c'est encore plus, je dirais, parlant. À partir de cette appropriation, ils vont développer sans cesse l'importance de faire l'Europe. Et là, on retrouve les influences de quelqu'un comme Rollier, mais aussi de tout le mouvement fédéraliste européen construit à partir de 1941 avec Totten, on le retrouve chez Chanoux, où il fait l'amalgame complètement de son acculturation du modèle suisse et des idées européennes développées pendant ces temps de guerre. Mais j'y reviendrai plus tard. Dans un premier temps, il y a une question qui s'est posée tout de suite, c'est la question de savoir si Chanon aurait souhaité, dans l'après-guerre, un rattachement à la Suisse ou un rattachement à la France. Puisque le séparatisme valdôtain s'est développé dès les années 43-44. Et dans sa biographie d'Émile Chanon, Louis-Roger Dempsey donne son avis, et pour ma part, je partage son avis de dire que Chanon était pour une annexion du Val d'Aoste à la Suisse, en disant que la haute considération que Chanon avait pour la Suisse était un sentiment partagé par d'autres valdôtains. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, un mouvement séparatiste en faveur de la Suisse se propagea en Val d'Aoste. Et il cite un article datant de 1945, qui est en italien, excusez mon accent. La questione del separatismo valdostano scoppiò quasi di colpo come un'epidemia nel giugno 44. Ma non fu un separatismo in nome della Francia, sebbene in nome della Svizzera. Un gruppo di valigiani, più o meno autorizzati da alcuni sostenitori attraverso clandestinamente il confine elvetico, giunse a Martigny e chiese al governo della Confederazione l'annessione della Valle. Dempsey rajoute un peu plus loin ce qui était important pour les Valdotins, c'était que chaque canton était bien évidemment une république indépendante avec son originalité, sa langue, ses droits, sa législation. Bien évidemment, la Suisse n'accepta pas l'incorporation de la vallée d'Aoste, puisque évidemment ça aurait remis en cause tout l'équilibre linguistique et politique construit depuis, comme nous l'avons vu ce matin, des centaines d'années. Et il y a un autre texte de Chanon qui me paraît encore plus clair quant à sa volonté d'une part de rattachement du Val d'Aoste à la Suisse et d'autre part sur le rôle de la mission, sur le rôle et la mission de la Suisse dans la construction de l'Europe à venir, qui s'appelle « Le rôle de la Suisse dans la renaissance de l'Europe », écrit en 1942 ou 1943. Où il nous dit « Le peuple suisse est peut-être trop occupé au travail de son sauvetage dans l'Europe en tourmente, il pense peut-être encore trop à lui-même et pas assez au peuple qui l'entoure, aux vieux peuples de la vieille Europe, si nombreux dans leur vieille civilisation et si faibles sous la férule de deux ou trois castes dominantes qui ont jeté l'Europe dans le fol incendie qui la dévore. Pour cette poussière de vieux petits peuples, vivant en deçà comme au-delà des Alpes, au-dessus comme à l'est et au nord de la grande chaîne de montagnes, la Suisse est pourtant le centre idéal, le point de jonction et d'union. Elle est la terre promise des hommes restés libres dans leur esprit. Que le peuple suisse comprenne cela, qu'il sente d'être ce pôle d'attraction, voilà qui suffira pour que ce processus de formation, d'amalgamation des autres peuples suisses par leur esprit, et là, on sait bien évidemment qu'il parle du peuple valdôtain, et lui. Car la Suisse est née d'un processus semblable entre les premiers cantons de montagne, elle s'est développée par un même processus et dans une période de folie semblable à la nôtre, c'est-à-dire quand l'Europe était déchirée par les guerres de religion. Et là, on voit bien les raccourcis historiques, et on voit bien que Chanon a complètement cédé à cette mystique nationale suisse. Qu'elle comprenne cela, qu'elle comprenne que sa mission de sauvetage dans cette nouvelle guerre de religion raciale consiste précisément à regrouper autour d'elle les autres peuples de l'Europe centrale, à les libérer de l'oppression des peuples qui les tiennent subjugués, et voilà que la grande œuvre de la Suisse pourra être réalisée. Ce processus d'unification européenne ne pourra cependant avoir lieu d'un seul coup. Une Suisse de 3 millions d'hommes ne pourra pas opérer cette fusion dans l'Europe. Une Suisse de 20 millions d'hommes pourra la réaliser. Voilà pourquoi de cette guerre fratricide entre Européens doit naître la nouvelle Suisse, c'est-à-dire une Suisse réunissant les peuples de la chaîne des Alpes, dont les mœurs, la race et les langages sont identiques à ceux des peuples suisses. Ce passage, je dirais, m'a semblé assez riche, et c'est pour ça que je me suis permis de le lire en entier. Parce qu'on voit, je dirais, les projets de Chanon pour l'après-guerre et la mise en place d'une fédération alpine qui permettra dans un second temps de réaliser une fédération européenne. Et on peut donc observer l'unité de pensée d'un homme comme Chanon qui mêle dans ce développement à la fois son admiration pour le modèle suisse, issu d'une appropriation de certains arguments helvétistes, et son fédéralisme européen, issu vraisemblablement de sa rencontre avec Roulier, les membres du mouvement fédéraliste européen. Joseph Bréant, il va encore plus loin dans son essai Civilisation alpestre en développant un nationalisme, carrément un nationalisme alpestre, voire une volonté d'impérialisme de la Suisse qui a quand même par ailleurs fondé son identité sur la neutralité, peu importe. Et il nous dit, dans le chapitre intitulé « Mission de la civilisation alpestre », que si l'on jette un regard sur la carte de l'Europe, on remarque que les Alpes constituent le nœud central. Trois grands fleuves descendent des Alpes, le Rhin des Gothard, le Rhône par lui aussi du Gothard et le Pô. Ces trois grands fleuves, gros de tous les autres fleuves, de toutes les rivières des Alpes, descendent dans les villes, portant partout où ils passent quelque chose de la civilisation alpestre. Car cette civilisation rayonne l'Europe chaque jour davantage, quoique d'une façon discrète et inaperçue. Le moment est peut-être venu où cet immense réservoir de valeurs humaines constitué par les pays des Alpes doit ouvrir ses écluses pour répandre tout autour les flots d'une civilisation capable de sauver et de rénover le vieux continent. Ce noble et malheureux continent qui se débat dans un désarroi angoissant, cherchant une voie de salut. Ce seraient donc les Alpes qui assureraient le salut de l'Europe, répondant ainsi à une mission divine. Cette mystique alpestre serait capable de reconstruire l'Europe sur les bases du fédéralisme. Et il semble clair que l'auteur ici amalgame le fédéralisme européen et une forme de nationalisme héritée des milieux helvétistes du début du siècle. Émile Chanou fait écho à cette idée en stipulant que dans l'Europe de demain, qui aura perdu par ses folies la domination du monde, la mission de la Suisse nécessairement sera modifiée. Alors elle pourra aspirer à la primauté. Non pas à une primauté matérielle, mais à une primauté spirituelle. La Suisse est au centre de l'Europe, elle a dans son sein des peuples parlant les trois principales langues de la péninsule européenne. Elle est en petit l'Europe devrait être en grand la Suisse. Et il finit dans ces brillants qui je dirais, va me permettre de conclure en disant toujours dans son livre « Civilisation alpestre », où il dit « La civilisation alpestre est en effet avant tout et par-dessus tout une œuvre de l'esprit, car elle est l'incarnation d'une idée, l'idée européenne. » Voilà, je ne vais pas aller plus loin, des exemples foisonnent parmi la littérature régionaliste et fédéraliste valdôtaine. Je vais juste conclure rapidement donc sur ces hommes et ces milieux fédéralistes alpins. On peut dire que pendant le premier XXe siècle, ces raisons ont développé de près ou de loin l'idée de fédération alpine qui est à l'origine de la notion politique actuelle d'arc alpin. Les racines idéologiques de cette idée de fédération alpine, prélude à une fédération européenne, sont à chercher à la fois dans les milieux régionalistes valdôtains, les milieux nationalistes suisses, les milieux non-conformistes français et plus tard les milieux européistes résistants en Suisse. Émile Chanou, dont nous étudions la pensée aujourd'hui, constitue l'archétype de cette pensée fédéraliste alpine, à l'instar de Denis de Rougemont ou de Gonzague de Reynold. Chanou, dans les années précédant sa mort en 1944, a proposé une pensée fédéraliste alpine cohérente, issue des différentes acculturations idéologiques que nous avons abordé. Cependant, il convient de souligner que si Chanou s'est effectivement placé dès le départ dans le camp de la démocratie et contre les totalitarismes, certains fédéralistes alpins n'en firent pas de même pendant et après la guerre. Et on peut citer par exemple quelqu'un comme Guy Hérault, qui au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale a développé une théorie basée sur l'ethnisme, voulant construire une Europe des régions, je dirais, exaltant la convivialité des ethnies pures. Et pour conclure, je dirais que occulter l'étude de cette frange ethniste et autoritaire de la pensée fédéraliste dans les Alpes, mais plus largement en Europe, ce serait à mon sens une grave erreur si l'on souhaite, comme on le proclame souvent, du moins comme les politiques le déclarent dans leur déclaration et dans leur discours, s'ils veulent faire de l'arc alpin un espace interrégional, européanisé, un territoire de démocratie et un véritable trait d'union vers l'Est de l'Europe. Je vous remercie.
Merci pour cet exposé extrêmement intéressant qui ajoute une série d'éléments à notre réflexion, qui montre encore une fois la complexité du fédéralisme avec ses dimensions diverses, de interne, externe, du haut, du bas, limité à une petite région, ouvert sur un vaste espace continental. Tout ça, évidemment, va permettre, je pense, une discussion. Nous avons maintenant environ une vingtaine de minutes, je suppose.
Démarrage des travaux, donc en principe on aurait pu se réunir ici à 2h30 de l'après-midi, on peut être un quart d'heure après.
quinzaine, une vingtaine de minutes pour débattre les différents exposés de ce matin et pour lancer le débat. J'aimerais revenir sur cette notion de civilisation des Alpes qui a été maintenant évoquée par le dernier intervenant et qui pose vraiment un problème considérable, à savoir celui qui est de savoir si le fédéralisme est vraiment une spécificité alpine, parce que là on a quand même à la fois un paradoxe ou alors une conséquence logique, hein, d'une société qui est tout le contraire de ce qu'on imagine parfois. Je voudrais quand même rappeler maintenant que les sociétés alpines sont par définition des sociétés ouvertes sur le monde, alors qu'on a voulu trop souvent y voir des sociétés fermées et des réserves d'archaïsme. Les sociétés alpines sont tout le contraire de cela, notamment par leur vaste réseau migratoire depuis des siècles, et aussi par leur pratique des échanges à travers les frontières, en tout cas dans les périodes historiques où les frontières n'étaient pas hermétiquement cloisonnées par les nationalismes. Alors on a quand même cette situation paradoxale, une société très, très ouverte, hein, qui propage alors une idéologie, parce qu'on peut l'appeler quand même idéologie, qui est le fédéralisme. Alors ceci, je crois, pose quand même passablement de questions, et j'ouvre le débat et donne volontiers la parole à qui veut la prendre maintenant. Oui.
Pensiero dei Nabdi, a strada l'avevamo già citato anche prima nel corso del mio intervento, e sta a dimostrare come tutte le volte, appunto, che c'è una crisi dello Stato si tende sempre a trovare una soluzione, la forma del decentramento, eccetera. E la crisi dello Stato, a me pare che, appunto, questa è la teoria che sta un po' alla base del federalismo sovranazionale si basa essenzialmente, è legata al problema dell'interdipendenza e dello sviluppo economico. Questa è la ragione per cui appunto, il tema del federalismo europeo diventa come una risposta a tutto ciò che non si può governare più a livello locale, quindi il problema poi che appunto, come si ricordava il Belgio, il separatismo legato a diventa separatismo legato al problema dello sviluppo economico è lampante. Poi nel Belgio, tra l'altro, lo stesso articolista che scriveva su Le Monde dava quasi diciamo così la ragione d'essere di questo separatismo soprattutto nella differenza linguistica, faceva l'esempio di come sono segnalate, indicate le strade, i paesi cambiando in continuazione lingua, per cui alla fine un turista straniero che non conosce il francese, il fiammingo, ma appunto solo l'italiano, solo il tedesco, solo l'inglese, pensa dopo un po' di chilometri, crede ogni volta di aver sbagliato strada, perché lo stesso paese viene indicato in modi differenti e quindi non sa più da che parte andare. Addirittura faceva l'esempio di una cittadina, adesso non mi ricordo quale, dove la differenza linguistica tra i due gruppi è addirittura segnalata dalle diversi lati della strada. Nella stessa strada, se uno passa a destra, trova appunto anche i negozi che vendono i prodotti alimentari tipici dei fiamminghi, delle zone delle Fiandre. Dall'altro lato della strada si parla un'altra lingua, si vendono prodotti alimentari differenti. Cioè, se uno chiede un'informazione a un negoziante, a un passante che è su un lato della strada e lo chiede in francese, sono i fiamminghi, fanno finta di non capire e non rispondono in francese, tranne poi quando capiscono che sei un turista e allora ti rispondono in francese perché in francese lo sanno benissimo. Ecco, quindi voglio dire, e questa in realtà io credo che non sia un problema linguistico, così come anche per Chanoux la difesa del francese non era un problema della difesa della lingua, ma era il problema della difesa di una cultura e soprattutto legato poi allo sviluppo anche economico della regione. Non dimentichiamo, appunto, sapete meglio di me, quanto il fascismo abbia condizionato l'economia della regione, appunto quasi come un'invasione, come una terra di conquista, insomma. E quindi due aspetti. Poi diventa, come nel caso del Belgio, il fatto che le Fiandre sono più ricche, ed è un po' il successo che ha la Lega nel Nord, insomma, perché questa idea che la parte più ricca del paese debba, è sempre più lontana poi dallo Stato, da Roma, insomma, dalle leggi centrali dello Stato, come del resto lo era per il Sud, la questione del Mezzogiorno, insomma, Salvini, eccetera, ci insegnano che cosa vuol dire la difesa. È chiaro che però quando uno ha la convinzione che in realtà tutto sta in piedi perché paga lui, questo è fondamentale, ci rende ragione perché le Fiandre vogliono abbandonare i Valloni e perché il Triveneto o la Lombardia in modo minore, insomma le regioni più ricche del paese, dimenticando invece che il problema appunto dello sviluppo economico, dell'interdipendenza fa sì che nessuno può ormai fare da sé, insomma, come il fascismo ci aveva quasi convinto che fosse possibile. Grazie.
Se c'è ancora tempo, io ho apprezzato molto le relazioni e vorrei interagire con alcuni dei professori ponendo essenzialmente delle domande. Io ho apprezzato, ho trovato bellissime le cartine che il professor Baltea ha presentato il suo discorso sull'identità svizzera che si crea intorno alla montagna. In queste cartine però io ho visto che se la città sfuma, come ha detto il professor Baltea, ci sono i laghi in molte cartine erano ben presenti. Quindi la domanda che vi farei, c'è la montagna, è possibile anche che in questa identità influisca il lago, che mi sembra presente. Anche perché nelle popolazioni di cultura tedesca, della Germania continentale, l'acqua non è l'acqua salata, ma è l'acqua dolce. È l'acqua dolce. I tedeschi, è quest'acqua. C'è un legame, i laghi contribuiscono assieme alla montagna a creare l'identità svizzera o no? C'è un legame tra la montagna e le sue acque nella creazione dell'identità svizzera? Altra domanda che vorrei, e con questo chiudo, per fare al professor Smith, non l'hai per tutti, ma mi devo fare. Allora, Nicola Smith ha sottolineato l'importanza del fatto, tra tantissime cose, del fatto che il montanaro svizzero legge e legge i giornali. Secondo me mi ha dato, vorrei chiedere se in questo fatto incide anche il fattore religioso, il protestantesimo, il fatto che il protestante, essendo demandata la lettura, l'interpretazione della Bibbia al singolo fedele, legge. E quindi sa leggere e legge anche i giornali, collegandolo al tema che lei ha sottolineato del percorso elementi di democrazia nella cultura, elementi politici, ma io le chiedo se entrano anche elementi religiosi. Grazie.
Merci. Chacolè, vous voulez penser?
Je peux répondre en vitesse et en français, vous m'excusez. Je crois pas que je peux répondre d'une manière satisfaisante à votre question, dans la mesure où je n'ai pas vraiment étudié la relation entre cette conception et la religion. Ce que je peux exactement vous dire, c'est qu'en Suisse, traditionnellement, les populations alpestres sont catholiques. Et donc, elles ont plus facilement été de tendance conservatrice, et que dans la guerre civile, les cantons du Sonderbund, les cantons conservateurs qui ne voulaient pas un État fédéral, se retrouvaient dans les premiers cantons primitifs du centre du pays. Et encore maintenant, les cantons qui sont le plus opposés à l'ouverture de la Suisse sont toujours les cantons de montagne à l'intérieur du pays. Le Valais, Uchich, Schwyz, Obwald, Wipfal, ces cantons de montagne sont des cantons plus traditionnels et moins ouverts sur l'extérieur.
Merci.
Je vous prie.
En ce qui concerne la question sur la place de l'eau et de l'eau douce, en particulier dans la construction identitaire, je crois que vous avez touché là vraiment un problème très intéressant qui a été jusqu'à présent très peu étudié. Alors je dirais que à certaines échelles, il est vrai que l'eau et le lac en particulier, je pense au lac Léman pour les populations qui habitent en bordure de cette région, jouent sans doute un rôle essentiel dans l'image de ce que l'on se fait du territoire et de l'appartenance à ce territoire. Mais à une échelle plus globale, la montagne supplante, je dirais, cela pour une raison d'abord très simple, c'est que où que vous vous trouviez en Suisse, vous voyez la montagne. Mais le lac, vous ne le voyez pas forcément. La rivière, elle est dans des trous. Donc là, il y a déjà un aspect qui joue sans doute sur les références au territoire. Mais bien entendu, l'image de la montagne est toujours associée également à des accessoires, si je puis dire, que sont les torrents. Et la montagne dont il est question, ce n'est pas forcément la montagne avec la neige, mais c'est une montagne verte, c'est la couleur verte qui domine dans cet imaginaire de la montagne fertile, la montagne des pâturages. Donc s'il existe de l'herbe et des pâturages, c'est aussi forcément parce qu'il y a des systèmes très élaborés d'utilisation des ressources hydrauliques, et sans évidemment aller jusqu'au 19e siècle avec l'utilisation notamment de l'eau pour produire de l'électricité, ce qui est quand même un des éléments fondamentaux de la modernisation de la montagne avec l'hydroélectricité, les industries liées à tout cela. Mais il est évident, là vous avez tout à fait raison, il faudrait peut-être une fois relire les textes que nous utilisons, non plus avec ce schéma préconçu que la montagne est l'essentiel, mais peut-être le voir d'un autre aspect avec les ressources de l'eau.
Si je peux me permettre par rapport à cette mystique, cette question de l'eau dans la construction identitaire de la Suisse, ce qui est sûr, c'est que quand on lit certains textes de régionalisme valdôtain, la question des fleuves, et quand on lit Bréhan, il dit quoi ? Il dit il y a deux fleuves, il y a le Rhin, le Rhône, ils partent d'où ? Du Gothard. Donc il y a une symbolique du Gothard qui est quand même très très forte. Et il dit quoi ? Il dit ces peuples irriguent l'Europe fort de tous les torrents. Donc je ne sais pas s'il s'approprie quelque chose qui est vrai en Suisse ou s'il reconstruit sa propre mystique, je dirais montagnarde. En tout cas, il utilise l'eau comme élément de la civilisation alpestre. Et on peut mettre ça en relation. Les derniers régionalistes savoisiens, à l'heure actuelle, pas beaucoup, mais il y en a, qu'est-ce qu'ils mettent en avant ? Ils disent, la France, elle tire son électricité de notre eau. C'est notre eau. Et c'est un élément fort du régionalisme savoisien, avec le peu d'importance qu'il a à l'heure actuelle, mais c'est un élément. Donc à mon avis, la mystique de l'eau, il y a vraiment quelque chose à tirer de tout ça.
Sur la question des ressources, nous faisons la même chose avec le fait par rapport à l'énergie. Je comprends très bien. Et par rapport à la question des ressources, je trouve assez vraiment très très juste. Il y a un élément qui m'a frappé, parce que c'est quelque chose que l'on voit quand on est valdôtain, on n'est pas suisse. Et c'est que ces étendues d'eau, et d'ailleurs le tableau que vous avez voir, convient de l'eau, transmet une idée de paisible. Et c'est aussi associé au caractère suisse, à tout le moins quand on le voit de l'extérieur, c'est calme. C'est plat, c'est doux, c'est gentil. Et c'est ce qui manque, par exemple, complètement, d'ailleurs. C'est beaucoup plus abrupt, vous n'avez que des torrents. Alors, vu de l'extérieur, c'est vrai que quand je me demande quelle est ma vision de la Suisse, et finalement, vous avez dit justement qu'en projetant la vision, quelque part, elle filtrera, interprétée même sur celui sur lequel on renvoie, eh bien, le côté paisible est effectivement très lié à l'étendue de tout ça.
Oui, la question que je suis tenté de poser, on en a parlé dans la réunion tout à l'heure, la réunion entre nous, c'est de savoir est-ce que toutes les régions montagneuses ne se caractériseront pas par des traditions de résistance à un pouvoir central. Alors, et notamment en vous écoutant sur la Suisse, je pensais à un exemple qui est emprunté à des milliers de kilomètres de là. J'ai dirigé il y a quelques années une thèse d'un étudiant afghan sur la période de l'occupation soviétique en Afghanistan. Et la conclusion que j'ai tirée de cette lecture, c'est que la résistance afghane à l'occupation soviétique, ce n'est pas une résistance nationale et patriotique, ce n'est pas une résistance anticommuniste, c'est une résistance à un pouvoir central. Et c'est parce que, à travers l'occupation soviétique, il y avait un pouvoir central réel qui s'installait, que, effectivement, ça a entraîné donc toute la guérilla. Et on peut dire que ce que je viens de dire là, c'est vrai pour le passé, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Et que donc, le problème de l'Afghanistan, c'est le problème, je pense que c'est le problème d'une résistance à l'existence, à l'idée de pouvoir central. Et on peut se demander si ce n'est pas la caractéristique de toutes les régions montagneuses. Et un autre exemple, mais encore une fois, hein, c'est un peu hypothétique, mais c'est un peu le problème, on en parlait tout à l'heure, c'est le problème des Kurdes. Hein. Est-ce que les Kurdes sont des nationalistes, ou est-ce que, surtout, ce sont des gens qui sont opposés aux différents pouvoirs centraux dont ils dépendent et qu'ils ne supportent pas. Et je ne suis pas du tout sûr que s'ils avaient l'occasion de créer une nation et donc de créer un pouvoir central autonome, je ne suis pas du tout sûr que ça réussirait.
Alors c'est un vaste problème. Je vous dirais qu'on est en train de préparer un projet de recherche avec des collègues de Paris 1 sur cette question, en fait, mais en ajoutant une comparaison entre la mer et la montagne. Parce qu'en fait, on se rend compte, à l'échelle européenne, que les populations de montagne ont des comportements tout à fait similaires aux populations côtières. Il y a beaucoup d'exemples, notamment sur les mers du Nord, le Baltique, Scandinavie, où on a exactement le même type de phénomène de résistance au pouvoir central. Et alors, ouvrir, si vous voulez, sortir des Alpes et confronter les Alpes aux populations maritimes, ça pourra donner peut-être un angle d'interprétation de cette vaste question qui me semble tout à fait prometteur.
Si je peux rebondir par rapport à ça, ce travail que j'ai fait sur l'arc alpin, il y a un travail, je crois, qui est en cours à l'heure actuelle sur l'arc atlantique. Et donc il y a encore une fois un aller-retour, et ce qui est intéressant de voir, par exemple, c'est que les premiers militants d'une Europe des régions, c'était les populations de montagne et les populations littorales.
Donc, c'est aussi, on peut ajouter que ce sont les populations périphériques.
Oui, non mais voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est les populations périphériques. Pourquoi elles sont périphériques? Parce qu'on s'est appuyé au départ sur des frontières naturelles. Donc, et la montagne et la mer. Donc à partir de ce moment-là, elles se situent en périphérie et donc elles développent des problématiques similaires.
Alors apparemment, vous n'avez pas très faim, mais...
Vous avez la jolie formule qui rejoint vos deux préoccupations sur la montagne et la mer, puisque le grand cri des revendications suisses, plus d'humilité, c'est raser les Alpes, qu'on voit la mer.
Merci, alors je ne sais pas qu'on peut lever la séance, parce que, et on reprend, on a dit à 14h45. Merci.